Géopolitique, le débat, Marie-France Chatin.
Géopolitique, le débat consacré aux orientations de Barack Obama à mi-parcours entre son élection et son installation à la Maison-Blanche. Nous retrouvons nos invités. Dominique Moisy, spécialiste des questions internationales, auteur de la géopolitique de l'émotion. Philippe Golub, professeur de relations internationales à l'American University de Paris. Et Karim-Émile Bitar, chercheur à l'IRIS, l'Institut de relations internationales et stratégiques. On reprend sur le conflit israélo-palestinien. Est-ce que la popularité de Barack Obama, le président américain dans le monde musulman, peut avoir une influence sur ce conflit? Philippe Golub.
Je pense que Barack Obama a la possibilité de changer la donne à plusieurs niveaux. Il peut effectivement influer de façon déterminante dans le conflit israélo-palestinien, mais il peut aussi influer, par exemple, et ça irait de pair, n'est-ce pas, avec ça, sur les équilibres dans la région dans son ensemble. Par exemple, il y a toute une série de discussions. L'hypothèse d'un voyage à la Sadat, à Jérusalem et Ramallah, s'accompagne d'autres hypothèses tout aussi hardies, d'un nouveau grand bargain.
Un grand marchandage,
merci beaucoup, avec la République islamique d'Iran, qui consisterait en une négociation générale de toutes les questions qui restent suspendues dans la relation irano-américaine et des conflits soulevés depuis la révolution de 1979. Les mêmes personnes, comme Zbigniew Brzezinski, qui suggère un grand marchandage et un settlement, je ne sais pas comment le dire non plus en français,
un règlement
du conflit israélo-palestinien, suggère qu'une redéfinition complète de la politique iranienne des États-Unis permettrait de régler toute une série de problèmes. D'abord, la question nucléaire iranienne, sous condition bien évidemment. Deuxièmement, une désescalade au Liban, la question du Hezbollah. Et troisièmement, ça aiderait à pacifier aussi la situation à l'intérieur de la Palestine, pense-t-il, n'est-ce pas? Donc, il a des marges de manœuvre. La question est de savoir quelles seront aussi les réactions des acteurs locaux. En Iran, nous ne savons pas exactement quels seront les équilibres. En Israël, nous ne savons pas si Netanyahou arrivera au pouvoir ou non. Donc, ça ne dépend pas que des États-Unis.
Bien sûr. Dominique Moisy.
Je crois que aujourd'hui les sondages en Israël donnent Netanyahou vainqueur. Les choses évoluent vite en politique. Qu'en sera-t-il en février? Je crois qu'il faut faire preuve de beaucoup de prudence. Mais quel que soit le Premier ministre d'Israël, il n'a pas les moyens de résister aux pressions fortes d'un président américain, pour peu que celui-ci souhaite exercer des pressions fortes.
C'est un élément nouveau.
Je crois que ça a toujours été le cas, mais ce qui est nouveau, c'est effectivement que la nature, la personnalité du président nouvellement élu aux États-Unis renforce la marge de manœuvre réelle de l'Amérique. Marge de manœuvre sur Israël, mais marge de manœuvre à l'encontre d'autres pays de la région et d'autres régions du monde.
Karim-Émile Bitar.
Tout à fait. Alors sur l'Iran, Barack Obama a déclaré il y a 2-3 jours qu'il souhaitait adopter la politique de la carotte et du bâton. Cette déclaration n'a pas été très bien reçue en Iran. On l'a accusé de faire preuve d'un peu de paternalisme. Et je pense que la meilleure stratégie serait de laisser Ahmadinejad s'empêtrer dans ses propres contradictions, de miser peut-être sur un effet Obama qui viendrait de l'intérieur même de l'Iran, où les politiques économiques d'Ahmadinejad sont très contestées, parce que toute attitude agressive venant des États-Unis va immanquablement provoquer un repli nationaliste. La société iranienne est une société civile assez évoluée, elle a achevé sa transition démographique, mais il y a toujours un fort sentiment nationaliste, et une agressivité américaine peut entraîner un ralliement autour du drapeau et paradoxalement renforcer M. Ahmadinejad, qui peut autrement s'écrouler de par lui-même aux prochaines élections.
Les élections qui ont lieu en juin prochain, est-ce qu'on ne peut pas dire précisément que cette agressivité à l'encontre des États-Unis est ce qui fait tenir le président iranien?
C'est en effet une stratégie, souvent une stratégie interne. L'Iran, Kissinger disait, Israël et l'Iran souvent n'ont pas de politique extérieure, c'est la politique intérieure qui détermine beaucoup de choses. Et cela reste vrai, mais les États-Unis eux-mêmes doivent à nouveau se remettre en question, non pas uniquement dans la politique de cette politique annoncée de l'engagement, du dialogue avec l'Iran et avec la Syrie, est une politique qu'on peut certes accueillir favorablement après les années de George Bush, mais ce n'est pas une panacée. C'est-à-dire que ne serait-ce que de dialoguer avec ces régimes peut leur redonner une légitimité et leur permettre de reprendre du poil de la bête. Je pense notamment au régime syrien, qui accueille très favorablement Obama et qui pense que cette politique d'engagement, de dialogue, va lui permettre de se repositionner, notamment au Liban. Donc, je crois que les États-Unis doivent être très prudents dans cette ouverture du dialogue, tout en le menant jusqu'au bout, mais ils doivent réévaluer le fond du problème. Einstein disait toujours « il n'y a pas moyen de résoudre un problème sans changer la mentalité qui prévalait lors de la création de ce problème ». Et aujourd'hui, même si on voit plusieurs signes encourageants venant de Washington, on ne voit pas encore cette perestroïka intellectuelle, ce changement d'orientation qui marquerait une véritable compréhension de la subtilité et de la difficulté des enjeux proche-orientaux.
On va poursuivre un peu ce tour du monde pour parler de la Russie. Washington-Moscou, les relations ont été très négligées depuis la chute du mur de Berlin. Est-ce que, et je crois que c'est un souhait de Barack Obama, de procéder à une sorte de remise à plat des relations avec la Russie? Aussi, par quoi peut passer cette remise à plat, Dominique Moisy?
Bon, d'abord, l'Amérique ne s'est pas occupée de la Russie depuis pratiquement la chute du mur de Berlin. Elle avait accueilli la disparition de la Russie avec un mélange de soulagement, d'indifférence et un peu de paternalisme. Et je crois que nous avons globalement raté notre relation avec la Russie au cours des 15 dernières années. Au fond, nous avons négligé la Russie. Nous avons considéré qu'elle était une carte au service de l'Occident et les Américains plus encore au service de l'Amérique. Ben, on s'est réveillé douloureusement. Le problème aujourd'hui, c'est de ne pas retomber dans la guerre froide. Je ne crois pas que ce soit un risque. La Russie n'est plus l'URSS, surtout avec un baril de pétrole qui tourne autour de $40. Mais comment intégrer les émotions russes, le sentiment d'humiliation profond qui a été celui de la Russie au lendemain de la chute du mur de Berlin et de l'effondrement de l'URSS, et en même temps faire comprendre à la Russie qu'elle ne peut pas tout faire et surtout pas n'importe comment.
Donc, vous pensez à la Géorgie cet été?
Je pense au-delà de la Géorgie, au discours russe sur l'Ukraine, sur la Biélorussie, qui est plein d'ambiguïté. Donc, en quelque sorte, redéfinir, vous l'avez dit fort justement, les règles du jeu à l'égard de la Russie. Peut-être ne plus mettre l'accent sur l'élargissement de l'OTAN, comme on l'a fait hier, de manière, je crois, un peu imprudente.
Je crois que tout le monde l'a un peu compris, cela.
Tout à fait. La malencontreuse aventure du Caucase, avec l'imprudence, l'aventurisme suicidaire du président géorgien, exploité très cyniquement et brutalement par la Russie, a mis un peu un terme à cela. Mais en même temps, faire comprendre à la Russie qu'il y a des limites à son ambition de redevenir une grande puissance. Et au fond, je dirais la culture russe aujourd'hui, c'est de dire « je vous fais peur, c'est donc que j'existe ». Eh bien, il faut dire à la Russie que non, elle peut exister
autrement
et beaucoup mieux par rapport à elle-même et par rapport au monde.
Alors, exister autrement, c'est peut-être ce qui va être demandé à l'Europe, à l'Union européenne. On s'attend à ce que les États-Unis frappent à la porte de l'Union européenne pour lui demander davantage. Je pense notamment à l'Afghanistan. Vous évoquiez, Dominique Moisy, tout à l'heure, l'idée que finalement, l'unilatéralisme américain, eh bien, on s'en était arrangé. Et qu'est-ce qui peut se passer aujourd'hui dans cette...
Je crois que le premier point, c'est qu'à un moment donné, Barack Obama va se tourner vers les Européens en leur disant « Vous avez voté pour moi, j'en suis touché, maintenant j'ai besoin de vous. Est-ce que vous pouvez accompagner vos votes symboliques par des actions concrètes ?» Et ça va commencer par « J'ai besoin de plus de troupes en Afghanistan, j'ai besoin, etc. » Il y aura une liste. Et là, effectivement, l'élection de Barack Obama est sans doute une chance pour l'Europe et le monde, mais elle est un test pour l'Europe. Est-ce que nous savons, nous pouvons répondre aux attentes américaines? Est-ce qu'il existe une Europe sur le plan de la sécurité qui puisse jouer le rôle que l'Amérique entend lui faire jouer dans le contexte de la crise économique actuelle?
Est-ce qu'on a la réponse, Philippe Gelub?
Je pense que la question ne concerne pas que l'Europe. L'Europe aujourd'hui est dans la crise économique et financière. L'Europe démontre aujourd'hui son incapacité justement à trouver des solutions coopératives. On est dans une situation de non-coopération, de manifestation des égoïsmes nationaux. On le voit bien dans le cadre de la mise en œuvre de la politique allemande économique et financière, qui ne correspond absolument pas à l'action d'un pays économiquement dominant qui voudrait trouver des solutions coopératives. Mais plus généralement parlant, George Bush, il faut le dire, je pense que on ne peut pas simplement tirer un trait sur le passé, parce que le passé a eu lieu, a laissé des traces profondes dans la politique internationale, que les 8 dernières années ont fondamentalement changé la trajectoire de ce que nous pensions être la politique mondiale. Et la renationalisation de la politique internationale auquel nous assistons aujourd'hui, en Russie, il y a une renationalisation des politiques, des manifestations de puissance, des tentatives de manifestation de puissance, une renationalisation très forte en Chine, un nationalisme fort qui s'exprime. C'est vrai ailleurs aussi, c'est vrai y compris du Brésil, de l'Inde, bon, etc.
On pourrait... Les pays émergents.
Les pays émergents, mais c'est des États-Unis... Tout d'abord, qu'est venue cette tentation-là ? Car on peut interpréter ce qui s'est passé sous George Bush comme une expression exacerbée du nationalisme américain, une forme d'ultranationalisme qui s'est transformée en néo-impérialisme, n'est-ce pas ? Or, c'est pour ça que j'ai mentionné au début de ce que je disais, une fragmentation du système international. Parce que la nation est redevenue le cadre essentiel dans lequel se déclinent à la fois les identités et les politiques internationales des États. Et c'est vrai de la Russie, de la Chine, de l'Inde, du Pakistan, du Brésil, mais y compris au sein de l'Union européenne, de façon moins exacerbée, bien évidemment.
Karim Emil Bita.
Alors, nous avons évoqué tout à l'heure le protectionnisme américain. Il n'y a pas beaucoup de chances que le protectionnisme, la tentation protectionniste ne retouche à nouveau les États-Unis. Par contre, en Europe, certains signaux sont assez surprenants. Il y a cette crise systémique va frapper l'Europe tout aussi violemment qu'elle ne frappe les États-Unis. Elle le fait déjà, d'ailleurs. Les quelques économistes qui avaient prédit la crise, comme Paul Jorion, l'anthropologue, ou Nouriel Roubini, nous disent que le pire est encore à venir. Et ceci va susciter en Europe des réflexes protectionnistes assez importants. Si l'on voit aujourd'hui le grand succès du livre d'Emmanuel Todd, Après la démocratie, qui est un plaidoyer pour le protectionnisme, on voit également beaucoup d'autres indices qui peuvent laisser penser que les opinions publiques européennes pourraient se laisser tenter par cette tentation. Donc il y a deux façons de répondre à la crise, soit une solution au niveau mondial, un système financier, une nouvelle architecture du système financier mondial, soit le protectionnisme. Et ce n'est pas certain que c'est la solution idéale, à savoir la réforme du système mondial, qui l'emportera. Donc c'est là un des paramètres qui sera important dans les mois à venir. Est-ce que l'Europe saura faire face à cette tentation du repli protectionniste ? Par ailleurs, pour ce qui est de la Russie, on est également dans une zone où les symboles sont très importants, où les relations personnelles peuvent jouer un rôle. On se souvient qu'après le 11 septembre, Poutine avait téléphoné à Bush, avait mis à sa disposition tous ses services de renseignement, s'était montré vraiment très ouvert. Donc ces relations personnelles qui s'étaient établies à cette époque-là étaient assez fortes. Et par la suite, il y a eu une série de malentendus. Donc je crois que ce qui sera fondamental dans les mois à venir, c'est cette question des émotions, des symboles, des rapports personnels que Barack Obama peut entretenir avec le reste du monde. Et s'il parvient à maintenir cet état de grâce, ce halo qui l'entoure aujourd'hui, ça peut être porteur d'espoir, bien que tous les indicateurs sur le terrain économique, politique, sociologique incitent au contraire au pessimisme.
Est-ce que l'Afrique, on est sur RFI, est-ce que l'Afrique va être davantage intégrée dans les préoccupations du président américain ? Qui veut répondre, Dominique Moisy ?
Je le pense profondément. Si il y a un continent où l'élection du président Obama a changé la donne, c'est le continent africain. Son élection a été perçue comme une revanche sur l'histoire. Le continent le plus négligé, le plus déclassifié, le plus humilié, eh bien, ils ont perçu l'élection d'Obama comme vraiment l'élection d'un Africain à la présidence des États-Unis. Ce n'était pas le cas, bien évidemment. Et son élection n'a rien changé au niveau du concret. On meurt toujours du choléra au Zimbabwe, on se massacre toujours au Darfour, le sida est toujours aussi important. Mais au-delà, je crois que l'élection de Barack Obama, avant le mondial de football en 2010 en Afrique du Sud, a été une piqûre de vitamines dans le bras du continent africain. Et je pense qu'un des premiers voyages de Barack Obama sera vers l'Afrique. Il a fait un voyage il y a quelques années, quand il n'était que jeune sénateur, dans le continent africain, et son émotion était très claire. Il a été dans l'île où Mandela a été détenu prisonnier pendant des dizaines d'années. Il s'engagera, car il a intégré le poids des symboles dans la politique internationale.
Est-ce que vous pensez précisément, Dominique Moïsi, que ces conflits, ces tragédies que vous évoquiez à propos de l'Afrique sont ressentis de manière insupportable, justement, par Barack Obama et qu'on peut imaginer des interventions ou en tout cas une présence accrue des États-Unis sur le continent africain?
Je crois que toute la difficulté, c'est de ne pas sombrer d'un excès dans l'autre. Barack Obama a été le candidat du monde, mais il est le président des États-Unis. Et sa responsabilité, elle est d'abord vers les États-Unis. Et c'est un Américain qui a des émotions américaines, mais qui, de par son parcours atypique, a une compréhension de l'islam via l'Indonésie, du monde africain à travers son père, qu'il a si peu connu. Je crois qu'il est absolument impératif de lire son livre « Dream of my father », le rêve de mon père, pour le comprendre. Et je crois qu'il est important que nous le comprenions.
Karim Emile Bitar.
Et c'est un livre absolument passionnant et émouvant et qu'il a écrit lui-même, ce qui est très rare chez un homme politique, peu après sa sortie de Harvard. Alors il faudrait quand même que l'Afrique saisisse elle aussi cette chance et sorte de certains archaïsmes. Parce que ce qui est frappant, c'est ce que j'ai appris il y a quelques jours, c'est que Barack Obama n'aurait pas pu se faire élire président s'il était resté au Kenya, au pays de son père, parce qu'apparemment l'ethnie à laquelle il appartient ne peut pas prétendre à la plus haute charge au Kenya. Donc il faudrait saisir cette opportunité pour, à travers le monde, faire tomber toutes ces barrières ethniques, communautaristes, tout ce regain des identités meurtrières qui continue de marquer la scène mondiale. L'élection d'Obama est peut-être une exception sublime qui confirme la règle. Et la règle, malheureusement, aujourd'hui, c'est le retour des passions identitaires un peu partout dans le monde. Et il faudra que l'Afrique saisisse cette opportunité. Je ne pense pas que Barack Obama pourra s'afficher très vite comme le président qui s'occupe de l'Afrique, parce qu'il va déjà faire face à une droite américaine assez remontée qui commence déjà à lui chercher des noises, à le présenter comme le candidat, justement, le candidat de l'étranger, le candidat... Il a réussi à ne pas apparaître comme le noir en colère pendant les élections. Donc aujourd'hui, on ne peut pas attendre de lui de très grands gestes, même s'il fera certainement des efforts symboliques. Mais c'est aux Africains eux-mêmes de saisir cette opportunité qui se présente.
Dominique Moïsi, Philippe Goulu.
Non, juste un mot. Je crois qu'il a choisi une équipe centriste, entre guillemets, compétente, clintonienne, qui visait à éviter les accusations de la droite républicaine. En fait, c'est un homme libre, incroyablement libre pour un président américain. Quelque part, il peut faire ce qu'il veut pour peu qu'il réussisse ou qu'il donne l'impression de réussir.
Un homme libre, Philippe Goulu.
Je partage entièrement ce point de vue. C'est lui qui dominera la politique internationale des États-Unis et non pas ses ministres et les départements divers et variés. Et je voudrais souligner encore une fois ce qui a déjà été dit. Barack Obama a été élu président des États-Unis. Il hérite des structures, des intérêts de ce qu'on pourrait appeler l'Empire américain, dans un sens non péjoratif, c'est-à-dire simplement les intérêts globalisés des États-Unis dans le monde. Il ne peut ni se désengager, ni remettre en cause la totalité de ces structures. Que faire, par exemple, de l'immense appareil militaire dont j'ai parlé auparavant? Il ne pourra pas, il ne voudra pas le remettre totalement en question. Donc la question qui est posée dans sa gestion des diverses zones du monde, certes, il a sa propre expérience multiculturelle, et certes, il est vrai, c'est un personnage cosmopolite, c'est absolument incontestable, mais il n'est pas plus là pour gérer la déconstruction des intérêts internationaux des États-Unis que Churchill n'a été nommé en 1942 Premier ministre de Sa Majesté pour liquider l'Empire britannique.
Barack Obama, un homme libre, c'est ce avec quoi je terminerai cette émission Géopolitique le débat. Merci à nos invités, Dominique Moïsi de l'IFRI, auteur de La géopolitique de l'émotion aux éditions Flammarion, Philippe Goulub de l'American University de Paris et Karim Émile Bitar de l'IRIS, dont je signale l'ouvrage qu'il a dirigé, Regard sur la France, notre pays vu par 30 spécialistes internationaux. Géopolitique était signé Marie-France Chatin. Merci à la documentation de RFI et à Sébastien Gorin. Marie-Hélène Rollin était à la réalisation, Benoît Le Tyran à la technique. La semaine prochaine, Géopolitique sera consacrée à la piraterie maritime. À très bientôt.